Alors, dans les différentes formes d'articulation, d'hybridation entre des régimes ontologiques ou de transition d'un régime ontologique à un autre, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore examiné et qui est le rapport que les gens peuvent entretenir avec un passé plus ou moins idéalisé, plus ou moins fantasmé, plus ou moins regretté, ou au contraire conçu comme peu agréable, c'est-à-dire au fond le travail de la mémoire sur un passé plus ou moins récent et ses effets dans le désir de patrimonialiser au fond un état plus ou moins idéal d'une société quelque temps auparavant. Et David Berliner, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, travaille notamment sur cette question depuis pas mal d'années. Il a en particulier, et c'est son premier travail comme africaniste en Guinée-Conakry, étudié une société qui s'appelle les Boulongiques. Je ne sais pas si je vous prononce comme ça.
Boulongiques.
Bon. Voilà. qui ont été islamisés dans les années 50. Et le résultat, évidemment, de cette islamisation, c'est que les rites d'initiation, qui étaient très importants, qui, comme souvent, les rites d'initiation masculins, étaient assez brutales. Il faut imposer la marque de la norme sociale sur le corps des adolescents, ont disparu. Et donc, il y a un rapport très ambivalent des anciens initiés qui survivent, puisque bon, ça s'est arrêté en 52, 53...
54.
54. Qui, au fond, ont idéalisé cette période de leur vie, ont mis en exergue la violence, et bien évidemment, qu'elle comportait, et se présente vis-à-vis des jeunes à présent, ou du reste de la population, non initiés, en tant que gardien d'un savoir ésotérique disparu. Et donc c'est ce rapport d'ambivalence vis-à-vis d'un passé idéalisé que David Berliner a étudié. Et alors plus récemment, il a entrepris un terrain au Laos, dans la ville de Luang Prabang, qui est une ville qui est à la fois connue pour la beauté de ses monuments, de ses temples, de ses édifices coloniaux, et vis-à-vis de laquelle les habitants, notamment les habitants du centre-ville, ont des rapports aussi ambivalents, parce que à la fois ils sont conscients de ce qu'il s'agit d'un patrimoine, mais en même temps, cette patrimonialisation, cette muséification, ils l'aperçoivent comme une façon d'être resté à l'écart, au fond, du monde moderne. Et cette politique, donc, de muséification, de patrimonialisation, David Berliner l'a étudiée d'une façon plus générale, notamment en suivant les politiques de ces grands organismes internationaux dont c'est la mission de patrimonialiser, en particulier, évidemment, l'UNESCO. Donc ce sont ces questions de mémoire ambivalente dont David Berliner va nous parler aujourd'hui à partir de son expérience ethnographique. Merci, David.
Bien, merci. Merci, Philippe. Vous m'entendez bien ? Oui. Alors... je te remercie beaucoup pour cette invitation qui m'honore, même si elle me stresse beaucoup, elle m'honore beaucoup également. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'une série de choses liées aux questions mémorielles et à la nostalgie, en prenant deux cas ethnographiques, les deux cas ethnographiques sur lesquels j'ai travaillé, mais en vous présentant du matériel lié à ce phénomène patrimonial. Et je voudrais commencer... par un constat très général sur ce que j'appelle le tout perdre contemporain et qui est un concept que j'utilise pour décrire le fait que les diagnostics de perte se multiplient autour du globe et que Et d'ailleurs, l'anthropologue est confronté à ces situations-là un peu partout sur Terre aujourd'hui. On entend dans la bouche de nos interlocuteurs des formules du genre « on perd notre culture, on a abandonné nos traditions, les coutumes se perdent, tout fout le camp, les jeunes ne s'intéressent plus au passé, etc. etc. » Et donc, il se fait que ce discours sur la perte est... je dirais mondial aujourd'hui et se décline sous une diversité de formes que je voudrais analyser avec vous aujourd'hui parce qu'en effet, individus et collectifs sur Terre aujourd'hui s'approprient ce discours sur la perte des traditions, sur la perte de l'identité, sur la perte du savoir, sur la perte des racines. Et je voudrais, en tant qu'anthropologue, nous aider à comprendre quelles sont les modalités contemporaines que prend la perte culturelle dans des environnements sociaux et culturels différents des nôtres, et surtout examiner quelles sont les formes rhétoriques qui posent le diagnostic de perte. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on pose un diagnostic de perte culturelle, quels sont les différents acteurs qui vont poser ce diagnostic de perte, parce qu'on vit dans une époque où le déclinisme est quand même souvent à portée de main, et on a très vite tendance à dire « oui, tout se perd, tout disparaît ». Je pense qu'en tant qu'anthropologue, on doit prendre ces questions très au sérieux et s'intéresser à ce qui se perd, comment ça se perd, ce qui se transmet, comment ça se transmet, qui sont les acteurs de la perte, etc. Et est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on est vraiment confronté à des situations de perte ou pas? Je pense que ce sont des questions auxquelles on peut trouver une réponse. Alors la première chose que je voudrais, je dirais c'est un warning, une alerte avant de commencer. Quand je parle de perte culturelle, je n'entends bien sûr pas oublier qu'il y a effectivement dans l'histoire de l'humanité des victimes historiques, des situations ou des réalités de perte avec des populations qui sont colonisées, humiliées, exterminées, qui perdent leur culture. Je pense que c'est une situation absolument terrifiante que l'histoire et l'anthropologie documentent abondamment. Je n'entends absolument pas nier cette dimension-là des pertes traumatiques auxquelles ont été confrontées des populations amérindiennes, aborigènes, les juifs en Europe centrale, etc. Donc je n'entends pas dénier ou diminuer la dimension de la perte culturelle causée par le trauma, mais je veux aussi vous inviter à réfléchir sur le fait qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre d'un fantasme de la perte qui existe, notamment chez les anthropologues. Et là, je suis le premier à me retourner l'arme contre moi, si je puis dire. C'est-à-dire il y a une nostalgie qui traîne au fond de l'histoire de l'anthropologie elle-même, et c'est ce que j'ai appelé l'exonostalgie. Je vais vous en parler à travers cette présentation. L'exonostalgie des anthropologues et le paradigme des derniers. Le paradigme des derniers, c'était une formule de Daniel Fabre, que je reprends ici. Et il se fait que la rhétorique de la perte culturelle, pour les anthropologues, ça n'a absolument rien de neuf. Vous ouvrez « Les Argonautes du Pacifique » de Malinowski, vous lisez la préface ou la conclusion, et qu'est-ce que dit Malinowski ? Il dit « Au moment même où j'écris ces lignes, eh bien, il est déjà trop tard, les populations auxquelles je m'intéresse, alors que l'anthropologie est en train de devenir une discipline sérieuse, scientifique avec sa méthodologie, eh bien, ces populations sont en train de disparaître et l'objet de l'anthropologie est en train de disparaître. Donc, cette rhétorique de la perte culturelle, je peux vous donner des dizaines et des dizaines d'exemples, elle gît au cœur même de l'histoire de notre discipline, que ce soit dans les paradigmes britanniques, américains et français. Et la plupart de ces anthropologues d'avant la Deuxième Guerre mondiale, mettent en avant la fragilité de ces populations sur la dimension de la discontinuité et les transformations auxquelles elles sont confrontées, principalement dues à la situation coloniale. Donc, c'est principalement l'idée que ces anthropologues sont en train d'assister à la disparition de ces sociétés, mais outre ce constat anthropologique posé, il y a aussi quelque chose de l'ordre de... En tout cas, c'est comme ça que moi je lis ces textes, quelque chose de l'ordre du nostalgie pour des équilibres en train de se perdre, pour des paradis culturels qui étaient en train de se transformer au contact des religions importées, des cultures coloniales, etc. Et je pense qu'il y a là un fantasme, je ne suis pas le seul à le dire, il y a une série d'anthropologues qui dit un fantasme des peuples premiers qui gît au cœur même de l'anthropologie, qui aujourd'hui fait partie de la culture populaire francophone, aussi bien en France qu'en Belgique, qui va être contredit en quelque sorte à partir de la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, où on se rend compte que bien des sociétés qui ont été désignées comme en situation de perte culturelle, en fait, sont beaucoup plus résistantes que ce qu'on pensait. Il y a une durabilité des sociétés. Et in fine, le diagnostic de Malinowski, il est faux. Il s'est planté. Là, il faut bien le dire. Malinowski, et la disparition de la Kula, il annonçait la disparition de la Kula, c'est faux. Et là, sur ce coup-là, il y a une erreur de diagnostic de perte. J'ai une collègue canadienne qui aujourd'hui suit les expéditions de Kula, Suzanne Kuchling, qui est basée à Regina au Canada. Et vous pouvez d'ailleurs suivre sur Facebook, alors si vous êtes adepte des réseaux sociaux, le parcours de la Kula raconté par Suzanne Kuchling qui suit les expéditions de Kula. Donc l'argument de Malinowski que ces sociétés disparaissaient, eh bien, c'est une erreur de diagnostic. Et j'appelle cet état, cette posture vis-à-vis de la perte, une exonostalgie. Je l'appelle exonostalgie parce que je pense qu'on doit raffiner cette notion de nostalgie que nous utilisons. Et ce que j'entends par exonostalgie, c'est une posture très particulière vis-à-vis de la perte, mais vis-à-vis de la perte d'un passé que je n'ai pas vécu moi-même ou de la perte de quelque chose qui ne m'appartient pas. Et une sorte de lamento sur la disparition, mais sur la disparition qui touche les autres. C'est pour ça que j'appelle ça exonostalgie, hein, parce que c'est l'endonostalgie, je dirais, c'est la Madeleine de Proust, j'ai perdu quelque chose et je me lamente de sa disparition, et cette Madeleine va me rappeler des souvenirs de mon enfance, etc. L'exonostalgie, c'est le lamento sur la perte des autres. Alors, cette exonostalgie, elle peut prendre une diversité de formes, aussi bien ma nostalgie pour mai 68, je n'ai pas vécu mai 68, je fantasme en tant que jeune, plus aussi jeune que ça, académique sur mai 68, comme étant une période avec des auditoires enfumés et la liberté sexuelle. Beaucoup de mes vieux professeurs me disent « tu fantasmes un peu trop ». Ça, c'est une forme d'exonostalgie. Mais dans la déclinaison de ces formes d'exonostalgie, il y a aussi le lamento sur la perte de la culture des autres, et qui est celle, par exemple, que je rencontre quand j'ai trois touristes devant un temple au nord du Laos qui disent « Oh, c'est triste, tu vois, ils perdent leur culture ». Parce qu'ils ne portent plus les petites jupes traditionnelles. Voilà, donc il y a trois touristes hollandais devant un temple à Luang Prabang qui ne portent plus la jupe traditionnelle et ils se tournent vers moi et tu dis, tu vois, c'est dommage, ils perdent leur culture, ils ne portent plus leur jupe traditionnelle, ils sont habillés en jeans et ils utilisent des cell phones, des portables aujourd'hui. Ça aussi, c'est de l'exonostalgie. C'est l'exonostalgie des touristes qui, mais j'en parlerai plus tard dans mon exposé, qui se lamentent de phénomènes de disparition qui ne sont pas du tout liés à leur existence, qui sont liés à la vie des autres. Et c'est assez intéressant de voir qu'on est très habile à manipuler cette exonostalgie quand on est loin de chez soi. On veut être des progressistes sociaux chez nous, mais on devient très vite des conservateurs culturels quand on est au loin. Et je vous invite à réfléchir sur cette idée d'exonostalgie qui est donc liée à l'idée d'un ressenti de la perte, mais sans l'expérience directe de la perte. C'est ça l'idée. Il n'y a pas d'expérience directe de la perte, mais néanmoins, ça met en jeu une série d'émotions, de la colère, de l'indignation. Et je pense que cette exonostalgie, elle est fondatrice de l'anthropologie, mais aussi des pratiques muséales de collection. Dans l'idée, ça va disparaître, donc il faut collecter au maximum avec... c'est ça que je trouve particulièrement intéressant dans cette approche de la nostalgie anthropologique, ce sentiment que les anthropologues arrivent toujours presque trop tard. Je dirais que cette génération d'anthropologues de l'époque malinowskienne disent « heureusement qu'on est là maintenant, parce que dans 10-20 ans, il n'y aura plus rien, on arrive presque trop tard ». C'est l'anthropologue qui arrive annonciateur de la disparition à venir. Aujourd'hui, vous travaillez avec des touristes au Laos, ils tiennent le même discours. Les touristes, bien souvent, vous disent « Ah, heureusement qu'on est là maintenant, parce qu'on voit des choses qu'on ne verra plus dans 10 ans, tout est en train de disparaître ». Mais c'est un vieux discours, aussi bien d'anthropologues et de voyageurs déjà depuis bien longtemps, c'est ce sentiment d'arriver presque trop tard. Et je dis souvent à mes étudiants, je pense que les anthropologues sont des gens qui arrivent toujours en retard. Je pense que les anthropologues ont deux problèmes. Parmi la multitude des problèmes qu'ils ont, ce sont des gens qui ont des problèmes de peau, et, au sens qu'ils ont toujours besoin d'aller essayer de s'identifier à d'autres personnes dans des contextes culturels différents. Ça, c'est une chose. Les anthropologues ont des problèmes de peau. Et puis, ils sont toujours en retard parce qu'ils ont toujours ce sentiment qu'ils arrivent trop tard. Ils vont arriver trop tard, presque trop tard. Et ils sont là juste à temps, un peu comme des annonciateurs pré-apocalyptiques, un peu comme des annonciateurs d'avant la catastrophe. Ils étaient là juste avant que ça disparaisse. Et je pense que cette nostalgie patrimoniale, elle est au cœur même de l'histoire de l'anthropologie. Et elle n'a pas disparu, d'ailleurs. On fonctionne encore. Moi, je pense que les anthropologues sont bien souvent de grands nostalgiques. Alors, je voudrais vous montrer aujourd'hui, à travers deux cas ethnographiques, qu'il existe différentes manières de penser la perte, la transmission, et que quand un universitaire burkinabé, quand un activiste guatémaltèque, quand un expert de l'UNESCO, ou quand, que sais-je, un politicien flamand, alors je parle d'où je viens, vous dit « je perds ma culture », c'est pas exactement la même chose. Il y a des choses qui peuvent se recouvrir, qui peuvent vouloir dire la même chose, mais on est confronté à des configurations sociales, politiques et historiques qui sont différentes et qui vont rendre cette expérience et ce discours sur la perte différents, même si on voit aujourd'hui des phénomènes de mondialisation, d'attitude nostalgique aussi. Et je voudrais montrer qu'à la fois, on a des configurations locales liées à la perte, à la transmission, au patrimoine, et on a aussi, et ce sera le troisième point dont je vous parlerai ici, c'est la mondialisation de l'altitude nostalgique dont parle le sociologue Robertson, et qui est effectivement cette idée qu'à travers des organisations internationales, à travers des élites internationales aussi, des élites culturelles, eh bien, circulent des discours sur la perte, sur la transmission, sur ce qui doit être transmis, sur des diagnostics de perte, et qui vont contribuer aussi à transformer les paysages sociaux dans lesquels nous travaillons. Et je vous donnerai deux exemples. Un exemple qui est un exemple assez ancien dans mes travaux sur les Boulongitch de Guinée-Conakry, et puis sur l'UNESCOisation de Luang Prabang. J'en ai profité pour faire ma pub, puisque les idées dont je vous parle aujourd'hui seront publiées dans un livre en 2018 chez Zone Sensible, texte que j'ai intitulé « Perdre sa culture », où je débat de ces questions-là. Alors, je vous emmène d'abord sur la côte de Guinée, où j'ai effectué mes premières recherches de terrain. C'est un matériel qui est, je vous le dis en toute honnêteté, assez ancien, qui a 15 ans d'âge. Mais justement, il y a des données que je n'avais pas exploitées jusqu'à aujourd'hui et que je vais vous présenter aujourd'hui, qui sont exactement liées à cette question de la perte et de la transmission et de la nostalgie patrimoniale. Et le premier cas dont je vous parle, c'est un groupe extrêmement réduit, c'est 8000 personnes qui font partie d'un sous-groupe d'une population plus large qu'on appelle les Baga, qui constitue 40 000 individus sur la côte de Guinée-Conakry, qui sont des riziculteurs. Ce dont je vais vous parler ici, c'est un exemple de mémoire religieuse, donc de problématiques liées à la transmission et à la perte dans le cadre de pratiques religieuses dont Philippe parlait en me présentant. Et effectivement, vous êtes confronté ici à une société qui était caractérisée par des pratiques rituelles avant l'islamisation qui se produit dans les années 50, des sociétés d'initiation, des... Je vous ai mis quelques photos du cadre dans lequel on se trouve. Et c'était des sociétés qui étaient caractérisées par la présence de grandes initiations autour de ce masque ici que vous pouvez voir à droite, qui est un masque à l'allure serpentiforme qui s'appelle Mosolokombo, qui est aussi très connu dans le milieu des collectionneurs d'art, et qui était le masque dirigeant les initiations masculines et qui inspirait un climat de terreur dans cette région de la Guinée, non seulement à travers les initiations, mais à travers toute une série de pratiques religieuses dont il était, qu'il dominait. Punition des infractions, code d'éthique, subordination des femmes, enfin, etc. C'était un véritable climat de terreur autour de ce masque serpent. Et cette période dont parlent mes interlocuteurs, ils la désignent comme le temps de la coutume. C'était temokutum, le temps de la coutume, c'était avant l'introduction de l'islam, qui commence à se développer dans les années 30. Les chefs de canton se convertissent à l'islam parce que l'islam représente la modernité l'accès à la modernité. Et des écoles coraniques font leur apparition dans la région. Et en 1954, la dernière initiation est organisée. On appellera d'ailleurs les vieux initiés, ceux de 54, sont les derniers initiés à ces grandes cérémonies initiatiques où sortait le masque Mosolo Kombo. Parce qu'en 55, c'est la photo que je vous ai mise à côté, un Karamoko, comme on l'appelle, un expert coranique, à ses coups bocs carrés, circule dans la région côtière de Guinée et se lance dans de ce qu'on appellerait aujourd'hui un djihad destiné à supprimer les pratiques pré-islamiques, donc détruire les forêts sacrées, supprimer les bois, les objets rituels, je dois bien préciser, à la demande de toute une partie de la population qui veut se débarrasser de ce système rituel. C'est-à-dire tous les jeunes, tous ceux qui sont exclus de la machinerie initiatique sont très enthousiastes à l'idée que Assekou Bokaré viendrait purifier les villages de tous ces fétiches, il faut se débarrasser de tout ça. Et donc il y a un désir de en tout cas dans toute une partie de la population, de se séparer de ces pratiques-là. Et c'est assez intéressant. Derrière Bocaré, vous avez des collectionneurs d'art français qui collectent les objets. Donc certains des objets que vous trouvez aujourd'hui au Quai Branly ou chez des particuliers, eh bien, ont été acquis en suivant Assekou Bocaré sur les traces des... Voilà, ça, c'est une école coranique contemporaine dans la région. J'ai juste mis c'est une photo que j'ai prise en venant à côté de chez moi, parce que maintenant, dans le Club Med, le Mosolo Kombo est aussi représenté. Ça montre aussi la globalisation de ce genre d'image. Désormais, elle est commercialisée et elle fait partie aussi de nos sociétés dans des contextes radicalement différents. Alors, 1954, c'est la dernière initiation, c'est la dernière fois que les masques vont sortir, c'est la dernière fois que les vieux hommes boivent, dansent, etc. Bon. Et ces vieux hommes que j'ai rencontrés, eh bien, ils revendiquent, ils clament le fait d'être les derniers Boulognich. Nous sommes les derniers de cette génération. Rien de ce passé d'avant l'islamisation ne pourra être transmis. Il y a une transmission impossible, disent-ils. On ne pourra plus rien transmettre. Et il se fait que ces vieux hommes m'ont toujours accueilli lors de mes recherches, effectivement, avec des propos nostalgiques, en me disant, tu sais, il n'y a plus rien, on a tout abandonné, on ne sort plus les masques, etc. Et ça venait en quelque sorte confirmer aussi ce que des anthropologues avaient écrit à l'époque sur le sujet. Denise Paul avait travaillé dans les années 50 dans cette région-là, et elle avait aussi dit, oui, tout a disparu, il n'y a plus rien, les bagas ne savent plus ce qu'ils font, ils ont tout perdu, ils ne sont plus les héritiers de leur culture, enfin, etc. Elle a toute une série de propos de cet ordre-là. Et en fait, les discours que j'ai récoltés sur place au début venaient confirmer cette nostalgie d'ethnographe. Je devais me faire à l'idée que eh bien, je ne verrais plus rien, il n'y avait plus de grands masques, il n'y avait plus de cérémonies rituelles. Je devais me faire à cette idée-là, c'était dans l'africanisme du passé, et je devais m'orienter vers d'autres questions. Et donc, j'ai été nostalgique aussi dans ces premiers mois de terrain. Discours qui était confirmé par les jeunes hommes, les jeunes adultes de 20-30 ans, qui me disaient « David, nous, on ne connaît rien, tout a disparu, c'est perdu, les vieux qui ont été initiés ne veulent pas nous transmettre, on aurait bien besoin de ces secrets et de ces mystères pour nous aider à gérer les aléas de la modernité, mais les vieux ne veulent pas nous transmettre quoi que ce soit. » Bon, il se fait que... il a fallu plusieurs mois, si pas plusieurs années, pour que je me rende compte que les sites de la transmission n'étaient pas ceux auxquels je m'attendais et que, in fine, bien des choses de l'édifice rituel d'avant ont été transmises. Et je vous donne juste un exemple en passant. Je me souviens un matin, une petite fille de la maisonnée où je travaille, Oumou, elle a 3-4 ans, elle se met à chanter un chant et je demande au vieux de la maison, je dis « c'est quoi cette chanson ?» Il me dit « ah ben ça c'était des chants que les femmes chantaient au moment de l'initiation, il y a 50 ans ». Je dis « ah, ça c'est quand même incroyable ». Donc vous me dites qu'il n'y a plus rien, mais il y a encore des choses. Là, la petite fille, elle fait circuler un savoir ou quelque chose lié à ce passé pré-islamique. Et donc, évidemment, ça a ouvert toute une voie de recherche sur la persistance de ces pratiques pré-islamiques et aussi sur la manière dont vieux initiés, jeunes adultes, vieilles femmes se positionnent aujourd'hui autour de ce temps de la coutume. Je ne vais pas entrer en détail parce que ce n'est pas l'objectif de ma présentation aujourd'hui, mais il se fait que de nombreuses discussions avec les jeunes adultes ont révélé le fait qu'ils ne sont pas du tout amnésiques, mais au contraire, ils sont quasiment paralysés par une mémoire fascinée sur ce passé du temps de la coutume. Ils savent beaucoup de choses sur Mosolo Kombo, sur ces génies d'avant l'initiation. Ils sont les porteurs d'une mémoire religieuse pré-islamique. Non seulement ils savent beaucoup de choses à l'imparfait, mais pour eux, bien de ces dimensions religieuses sont au présent. Et ils considèrent que Mosolo Kombo existe toujours. C'est un génie en l'absence du bois. La plupart des jeunes ne savent pas qu'il y avait un bois, d'ailleurs, qui représentait le génie. Les jeunes adultes disent « Mais oui, Mosolo Kombo, c'est notre génie, il est très puissant, il nous fait encore très peur aujourd'hui. » Toute une série d'anecdotes que j'ai recueillies à l'époque qui montrent qu'il y a une continuité entre le passé et le présent. Un tel Oumar, je cite ici, 18 ans, me dit que Mosolo Kombo est encore là avec sa femme et ses enfants. Il vit dans la mangrove. Tu peux le voir là-bas en train de prier. Quand il fait très chaud, tu peux le voir. Je rencontre des groupes de jeunes qui me disent que Mosolo Kombo est encore là. Ils l'ont croisé un matin parce qu'ils sont entrés sur un ancien lieu de forêt sacrée, etc. Donc, le paysage est encore totalement peuplé de ces entités initiatiques d'avant l'islamisation. Et les jeunes sont porteurs de rumeurs sur les capacités extraordinaires des vieux initiés. Il y a toute une série de discours sur le fait que les vieux continuent à pratiquer, il y a des secrets, ils sont encore, mais ils ne veulent pas nous transmettre. En fait, c'est ça l'idée, c'est que tout est encore là, mais ils ne veulent pas nous transmettre. Et jusqu'à présent, ça existe. Et d'ailleurs, isomorphie intéressante, un jeune homme me dit « Les forêts sacrées ont été rasées, mais aujourd'hui, les vieux vont à la Mecque, ce lieu uniquement pour les vieux et où les hadjs voient tous les secrets. » Donc, il y a une transposition de la Mecque comme le lieu des secrets. C'est un phénomène assez intéressant. Donc, les jeunes sont totalement fascinés par l'existence de ces savoirs barricadés. Et il y a une forme d'interaction qui est extrêmement intéressante que j'ai étudiée là-bas entre les vieux initiés et les jeunes adultes autour, et une congruence, je dirais, autour de l'impossibilité à savoir, puisque les vieux initiés ne cessent de dire « on ne peut rien transmettre, il n'y a plus d'initiation, donc on ne peut pas transmettre, on ne peut pas vous transmettre, il y a plus de, nous sommes islamisés, nous sommes les derniers Boulognitch ». Et les jeunes adultes qui sont congruents, qui disent mais c'est vrai, on est incapable, on ne connaît rien, nous, on ne serait pas capable de préserver ces secrets. Donc il y a une espèce de reconnaissance de cette fondamentale impossibilité à transmettre et à recevoir. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous rendez très vite compte que les vieux initiés, pour les vieux initiés, transmettre, c'est pas du tout la métaphore glorifiante de la transmission patrimoniale. Transmettre, c'est perdre quelque chose. Quand les vieux disent « je ne veux pas te transmettre », c'est parce qu'il y a le risque de perdre un savoir. Et donc, c'est l'inverse de notre métaphore glorifiante de la transmission. Il faut transmettre. Là, vous avez une situation où le secret, un environnement saturé de secrets, où transmettre en l'absence de conditions nécessaires à la transmission des secrets, c'est-à-dire des initiations, de la souffrance, etc., nous menace de perdre quelque chose. Et donc, vous avez une interaction très intéressante à analyser. Là, d'un côté, ces jeunes qui disent « je ne connais rien et je ne peux rien comprendre, je n'ai pas les moyens », et les vieux qui pérennisent la structure du secret en disant « il y a toujours des secrets ». Il y a quelque chose de l'ordre d'une réalité auquel vous n'avez pas accès, auquel nous avons eu accès en tant que vieux initiés, qui est hautement précieux et qu'on ne peut pas vous transmettre et qu'on ne peut certainement pas patrimonialiser. Et ça m'amène à vous parler de ce matériel que je n'avais pas utilisé dans le passé. C'est justement la situation de ces élites urbaines dans cette configuration liée à la persistance des secrets, qui sont des citadins, donc qui sont des personnes qui ont quitté les villages depuis extrêmement longtemps. Certains sont nés d'ailleurs en ville et vivent dans les grandes villes, Conakry, ou dans les villes secondaires, Kamsar, Bofa, etc., de la côte de Guinée. Ils ont été scolarisés. Ils font partie d'une culture citadine qui est séparée du village, mais ils ont un rapport à ce passé initiatique qui est particulier et dont je voudrais vous parler ici. Parce que c'est une mixture, si vous voulez, c'est un mélange d'une soif et d'une peur de savoir qui est celle des jeunes adultes dans les villages encore aujourd'hui, mais aussi mélangé avec un discours patrimonialiste sur la nécessité de préserver, sur la nécessité de préserver la vraie culture Boulognitch, la vraie culture Baga. Hein, et l'utilisation ici de la notion d'authenticité, de vérité est importante, parce que c'est quelque chose qui revient toujours. Il faut préserver la vraie culture Baga. Ce sont des gens donc, qui sont scolarisés, se sont frottés au discours patrimonialiste de Sékou Touré, se sont frottés aussi à des conceptions patrimonialistes de l'UNESCO, dans certains cas, et qui désormais combinent aussi bien un savoir sur les secrets et la peur des secrets, mais aussi une perspective universaliste sur la culture, qui est comparable à d'autres cultures. Et c'est un discours que j'ai entendu souvent. Il faut préserver pour le bien de l'humanité. Et ces acteurs urbains utilisent ces notions d'humanité. Toutes les cultures sont préservées aujourd'hui. Nous devons aussi préserver la nôtre, etc. On a aussi besoin de notre livre. Tout est en train de disparaître. Et en effet, quand un tel Monsieur Bangoura, que je rencontrais à l'époque, se rend au village, il interroge les vieux, il récolte des récits généalogiques, il prend des photos, il enregistre, il stocke du matériel. De la même manière, des résidents des grandes villes se cotisent pour acheter et faire resculpter des masques comme ceci, qui est le masque d'Imba, qui est un masque très connu chez les Baga, mais qui est financé par des ressortissants urbains et qui sort à l'occasion de mariages, des cérémonies de réjouissance, d'inauguration d'écoles, etc. Et le discours de ces élites urbaines, eh bien, c'est « nos vieux n'écrivaient pas et tout va disparaître » et donc on doit avoir un rôle actif dans la préservation de ces pratiques. Il y a un petit fascicule qui a circulé dans les années 90 dans la région où j'ai travaillé, qui s'appelle « Traditionalisme Baga ». Et l'auteur qui a diffusé ce fascicule dans la région dit « il faut montrer notre attachement indéfectible à ce peuple, le peuple Boulognitch, à ces vieux véritables bibliothèques traditionnelles, à ces coutumes qui se perdent, qui doivent être notées, cet art qui est en train de se perdre et ces danses Baga qui sont en voie de disparition. Tout cela est vraiment regrettable dans la mesure où les brillants éléments de la civilisation Baga, Boulognitch, vont dans les décombres. Il est temps d'en tenter le sauvetage. Vieux, parlez s'il vous plaît pour vos descendants, pour le monde entier. » C'est quand même intéressant. C'est pour le monde entier, quand même une rhétorique patrimonialiste universaliste qui vient se déployer là. Et évidemment, les ressortissants vous diront aussi qu'ils ont approché les vieux des villages, leur disant « est-ce qu'on pourrait pas révélez-nous vos secrets, on pourrait les préserver, ça nous aiderait à mieux survivre dans cette modernité difficile. » Et les vieux initiés ont toujours dit « mais absolument pas, on ne peut pas transmettre, il n'y a plus d'initiation. Le savoir que l'on aurait pu transmettre se transmet uniquement dans la souffrance et l'obscurité des forêts sacrées. Il n'y a pas moyen de le visibiliser comme un patrimoine, ce n'est pas possible. » Donc ces élites urbaines sont venues se confronter à la machinerie du secret des vieux, eux aussi, avec leur rhétorique patrimonialiste, mais ils sont venus se confronter à cette structure du secret, et les vieux leur ont dit « non, on ne peut rien transmettre, on ne transmettra rien, il est impossible de transmettre ». Mais ces élites urbaines, elles ont, je dirais que leur discours a une saveur particulière, parce qu'ils mélangent ce patrimonialisme nostalgique, parce qu'il y a une espèce de sentimentalisation du village, cette idée que le village, c'est un lieu qui est bourré de magie. Alors, il y a un discours sur les pouvoirs magiques et mystiques qui résident dans les villages. Et les élites urbaines que j'ai rencontrées en dehors du village parlent abondamment de ça. Ils en parlent beaucoup. Ils disent « au village, il y a ça, il y a tel vieux qui est très puissant. » Autant il y a du secret dans le village même. Une fois qu'on sort et qu'on va en ville, eh bien, les langues se délient. Et il y a beaucoup de récits sur la puissance de ces anciens rituels, sur Mosolo Kombo. Et je vous dirais même que Mosolo Kombo est devenu, d'ailleurs, donc ce génie qui était le génie d'initiation, est devenu une entité qui n'est plus seulement villageoise, elle est urbaine et elle est transnationale aujourd'hui, puisque en parlant avec des ressortissants urbains, ils me disent, tu sais, Mosolo Kombo, il fait désormais partie de la vie de Conakry. Il vient voir les ressortissants ici à Conakry, tu le reconnaîtras tout de suite. Il va directement chez les enfants, il retrouve les familles Baga grâce à la langue Baga, il s'amusera avec les enfants, il porte toujours une canne et du raffia, tu peux le reconnaître. Même intéressant que cette entité qui était une entité d'initiation avant les années 50 devient maintenant une entité qui suit les bagas dans leur pérégrination urbaine, mais même transnationale, puisque je parle avec un autre résident et il me dit « Tu sais, c'est devenu une puissance aussi sans frontières. Tout enfant de cette région est suivi par Mosolo Kombo. Si tu vas en Europe, il te suivra. Il parle toutes les langues. » Donc c'est devenu une puissance internationale qui dépasse de loin les frontières villageoises. Et à cet égard-là, donc, la position de ces ressortissants urbains est très intéressante à analyser. Je vais m'arrêter ici pour ce cas-là. Je voulais vous montrer qu'on est confronté dans cette situation des bagas à une arène de discours sur la perte qui viennent en fait s'articuler autour de cette configuration liée au secret. Et on ne peut comprendre la question de la transmission et de la perte que dans le cadre de cette configuration liée au secret, avec des vieux qui ont choisi de se tourner vers l'islam, qui maintiennent les jeunes dans un état de suspension en disant « tu ne peux pas savoir », des jeunes qui se lamentent de ne pas savoir, et des élites urbaines qui disent « il faudrait préserver, mais on ne peut pas y avoir accès ». Donc, il y a, voilà, c'est un peu le contexte compliqué de la transmission et de son absence dans cette région-là du monde, à savoir que j'ai des collègues qui ont travaillé d'autres populations, notamment au Sénégal, je pense à Ferdinand de Jong, dans une région où là, des pratiques initiatiques ont été patrimonialisées par l'UNESCO. Ça produit des effets absolument incroyables et des conflits aussi intenses entre les différents acteurs, puisque d'un côté, il y a un désir de visibilisation de ces pratiques, et de l'autre côté, pas du tout, puisque ce sont des pratiques secrètes et l'interdit de la visibilisation. Donc, ce sont des questions passionnantes. Alors, je vous emmène à vous parler de mon deuxième cas ethnographique. Philippe, tu me dis quand je dépasse. Qui est un terrain beaucoup plus récent, puisque là, c'est des données qui remontent à 5 ans. Et où là, je voudrais vous parler, pour le coup, d'un contexte urbain. On n'est plus du tout dans une situation villageoise. Là, c'est uniquement urbain, d'une ville touristique du nord du Laos, qui, alors là, et c'est ça qui a attiré mon attention, en fait, quand je m'y suis rendu. J'étais parti enseigner au Laos un cours d'introduction à l'anthropologie, et j'ai fait un tour du Laos. Et en arrivant à Luang Prabang, j'ai découvert une ville où la nostalgie patrimoniale est devenue un impératif moral et politique, hein, quasiment partagé par toute une série d'acteurs. Hein, c'est une ville qui est une arène patrimoniale, avec toute une série d'acteurs différents qui vont contribuer à cette patrimonialisation, à cette mise en patrimoine, et où la nostalgie patrimoniale est devenue un leitmotiv pour une série d'acteurs, pas tous. Et c'est ça qui rend aussi le phénomène intéressant, c'est que dont je vais vous parler ici, c'est dans ce cas-là, c'est qu'on a aussi une diversité d'acteurs, des acteurs qui sont très engagés dans cet effort patrimonial, qui sont très nostalgiques, avec différents types de nostalgie que je tenterai de préciser, et puis d'autres qui ne sont absolument pas nostalgiques, qui diagnostiquent la disparition, mais qui ne sont pas du tout dans un discours sur la perte et sur lamento sur la perte. Et ça, ce sont principalement les résidents de la ville qui ne se lamentent pas du tout de perdre leur culture et confrontés à des experts de l'UNESCO qui diagnostiquent une perte culturelle. Bien. Alors, nous sommes au nord du Laos, à Luang Prabang, qui est une ville royale, qui est une ville très ancienne au Laos, qui a été fondée au XIVe siècle, en même temps qu'un royaume, le royaume de Lang San, a été fondé sur des populations qui étaient indigènes, des populations Khmu, et qui est devenu un royaume bouddhiste, qui va connaître une série d'invasions à partir du XVe siècle, les Vietnamiens, les Birmans, les Thaïs, les Chinois, jusqu'aux Français, qui établissent un protectorat au Laos, qui persistera jusqu'en 1253. Dans les années 60 et 70, le parti révolutionnaire Lao se développe et mène à la révolution communiste de 75, qui constitue pour Luang Prabang un moment extrêmement compliqué, puisque les royalistes sont pourchassés par les révolutionnaires et il y a une diaspora d'originaires de Luang Prabang qui se crée en Thaïlande, mais aussi en France, aux États-Unis, etc., qui quitte en urgence le Laos, parce qu'accusés d'être des potentiels royalistes, parce qu'ils viennent de Luang Prabang. Donc, c'est une histoire très compliquée, c'est une histoire qui est bien souvent souffrante. C'est une histoire de fuite pour bien des anciens habitants de la ville, de remplacement de population aussi. Et c'est sur fond de cette histoire extrêmement compliquée qu'en 1995, l'UNESCO, je vous passe le processus compliqué à travers lequel Luang Prabang est reconnu site du patrimoine mondial, c'est très ennuyeux, tous ces processus décisionnels sont un ennui absolu, mais il se fait qu'en 1995, Luang Prabang est mis sur la liste du patrimoine mondial et qu'il y a désormais des architectes liés à l'UNESCO qui vivent sur place, il y a des experts liés à l'UNESCO qui vivent sur place, et une certaine accusation qu'on entend dans des rumeurs qui circulent dans la ville, que les Français sont trop présents à Luang Prabang à tel point que ça deviendrait Luang Paris. C'est quelque chose que j'ai entendu souvent. Vous voulez transformer notre ville en Paris. Alors, concrètement, depuis 1995, il y a une série de mesures patrimoniales qui sont destinées à pérenniser l'authenticité du lieu. Vous connaissez ces formules de l'UNESCO. Il faut pérenniser l'authenticité du lieu. Donc, il y a... voilà, c'est Luang Prabang, c'est un lieu absolument... charmant, effectivement, toute une série d'habitations qui sont l'objet de la préservation, ces maisons d'inspiration dites précoloniales qui font partie de la liste de préservation, également ces maisons sur pilotis qui sont des maisons voilà, je suis passé un peu vite, ces maisons sur pilotis qui sont des maisons précoloniales, et puis aussi l'architecture coloniale qui fait partie du plan de conservation, comme ce genre de maisons, ainsi que, pardon, les 34 temples bouddhistes qui font partie de l'inventaire et de ce qui doit être préservé. Alors, je voudrais vous montrer maintenant que, contrairement à l'idée qu'il pourrait y avoir une forme de nostalgie, il y a une multitude de positionnements nostalgiques dans cette ville autour de sa préservation. Et je vais vous parler d'acteurs très divers, aussi bien les acteurs du patrimoine que les élites locales, que les touristes, etc. Et vous allez voir que c'est une arène très compliquée dans laquelle viennent se déployer des nostalgies aux allures assez différentes. Alors vous avez, voilà, ça c'est aussi un autre temple de Luang Prabang, et là c'est la maison du patrimoine, c'est le lieu où les architectes français et internationaux, et aussi laotiens, travaillent. Alors, les premiers experts que j'ai rencontrés sont des experts que j'ai rencontrés à l'UNESCO, aussi bien à Paris qu'à Bangkok, dans l'organisation internationale, et là j'étais confronté à une nostalgie bureaucratique assez standard, qui est une forme de rhétorique d'institution sur la disparition des cultures et sur l'irréversibilité de la perte, qui mettait en avant quatre points, et dans tous les discours que j'ai recueillis chez ces experts internationaux, quatre points en particulier, c'est que la ville de Luang Prabang est un lieu unique et précieux, voilà, donc il y a l'idée d'unicité, il y a une authenticité qu'il faut préserver, et une authenticité qui est liée au passé colonial et précolonial. Voilà. Secondo, cette authenticité, elle est liée à son charme. Alors, c'est une notion qu'on entend souvent dans la bouche des experts de l'UNESCO. C'est le charme de la ville. On l'entend aussi chez les touristes, mais chez les experts de l'UNESCO, il y a cette idée, cette ville a un charme, et il faut préserver ce charme. Comme le dit cet expert rencontré à Paris, le patrimoine à Luang Prabang, c'est la vie, l'atmosphère, le calme, l'ambiance. Allez-y pour monitorer une ambiance et une atmosphère... bonne chance. Alors, donc, c'est un lieu unique ancien, c'est un lieu qui a du charme, c'est un lieu fragile, ça fait partie de la rhétorique patrimoniale, c'est fragile, ces experts que j'ai rencontrés dans les bureaux de l'UNESCO ici et à Bangkok ont une rhétorique alarmiste en disant « il est déjà trop tard ». Si ça vous rappelle quelque chose, « il est déjà trop tard », la modernisation a déjà tout foutu en l'air, et surtout, cette ville est en train de perdre son âme, son caractère. C'est étonnant que ces notions, qui sont plutôt des notions d'ailleurs animistes, je dirais, sont utilisées dans le cadre d'organisations internationales. On parle d'âme, de charme, etc. Et on veut monitorer l'âme d'une ville. Ça me semble assez... Et comme me dit cet autre expert rencontré à Paris, Luang Prabang perd sa culture. Il n'y a plus de culture ici. Les gens ne savent plus transmettre le culture. Donc, ça, c'est le diagnostic posé par un expert français, hein, sur la situation dans cette ville. Et c'est le tourisme qui est considéré comme étant la cause principale de déclin de la culture locale. On voit plus de touristes que de locaux dans les rues. Et c'est vrai qu'il y a toute une série d'initiatives touristiques qui ont été développées. Et le centre-ville est effectivement en train de devenir un centre touristique avec une série de maisons qui sont allouées et d'habitants du centre-ville qui vont s'installer en périphérie et qui louent leur maison à des expatriés ou à des investisseurs, etc. Il y a un processus de touristification, il y a un processus qui est tout à fait réel. Mais bon, on va voir ce qu'en pensent les acteurs, les populations locales. Bon, j'en termine ici avec cette nostalgie externaliste des bureaucrates. C'est une nostalgie pour un site dont ils ne vivent pas la vie au quotidien. C'est une nostalgie qui est produite dans les bureaux ici à Paris ou à Bangkok. Et donc, il y a une certaine désincarnation. C'est toujours un regard éloigné. Il y a quelque chose, il y a une forme d'expertise sans émotion. Alors là, pour le coup, bon, qui contraste radicalement avec les experts que vous allez rencontrer sur place. Il y a des experts qui vivent à Luang Prabang depuis 10 ans, depuis 15 ans, puis, depuis la reconnaissance, depuis le listage par l'UNESCO. Et alors là, par contre, ces experts français principalement que vous allez rencontrer sur place, c'est totalement différent. La nostalgie qu'ils mettent en jeu est une nostalgie qui n'est pas bureaucratique, externaliste, désincarné, mais c'est une nostalgie qui est extrêmement liée au vécu qu'eux-mêmes ont de l'expérience de la ville. Et alors là, pour le coup, le stéréotype d'expert désincarné ne tient pas du tout la route pour ces experts qu'on rencontre à Luang Prabang, puisque eux vont déployer le thème nostalgique de la disparition de la ville, et ils le combinent à leur vécu, à leur expérience de la ville, et leur ton est celui de l'indignation, de la dénonciation. Luang Prabang deviendrait un Disneyland, un zoo. Je cite ici l'un des experts qui vit sur place et qui me dit « La préservation de la ville, c'est une catastrophe, un échec, un naufrage, un désastre, une horreur, au sein duquel ils perçoivent leur travail d'expertise comme une lutte permanente. Pour certains, c'est une mission impossible. » Moi, je suis un mercenaire ici, c'est le discours d'un expert de l'UNESCO qui vit sur place. Il dit « Je suis un mercenaire face à l'afflux des touristes, face à l'incompétence des locaux, face à... » Et c'est tout fout le camp. Voilà. Et l'exemple qui revient toujours dans le discours de ces experts du locaux, c'est Takbat. Alors Takbat, c'est ce rituel, c'est cette scène religieuse quotidienne qui témoigne de la générosité des habitants du centre-ville vis-à-vis de leurs moines, et où on va, à 6h du matin, parfois, s'agenouiller et donner du riz aux moines qui donc vont être nourris pour la journée et qui vont en échange prier pour les habitants. Donc c'est une espèce de relation de réciprocité pour le bien-être de la ville. Et aujourd'hui, eh bien, certains touristes se mêlent à Takbat et les experts de l'UNESCO considèrent que c'est absolument choquant. Ça devient un cirque touristique, un zoo où les touristes nourrissent les moines comme des animaux. Le touriste est un prédateur, s'exclame l'expert interviewé. Et donc, il y a cette idée que le tourisme représente toujours une menace majeure à la préservation de l'esprit du lieu. Menace du touriste, mais aussi menace des habitants eux-mêmes, qui sont vus comme des incompétents. Ça, c'est aussi une rhétorique assez classique des patrimonialistes. Les locaux sont toujours incompétents à préserver leur propre héritage. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'experts internationaux, parce que les habitants, eux, suroccupent leur territoire. Ils coupent les arbres alors qu'on ne peut pas couper les arbres. Ils peignent avec de la laque et des couleurs acryliques, et ça enlève le cachet de la ville. Donc, la lutte de ce pauvre mercenaire du patrimoine est une lutte contre les locaux, contre le kitsch des locaux, contre leur incapacité, mais aussi contre les touristes qui ne comprennent rien et qui nourrissent les moines comme des animaux. Et quand vous rencontrez ces touristes, il n'y en a pas qu'un, il y en a plus, ces experts de l'UNESCO, sur le terrain, c'est radicalement différent de l'expertise dans les bureaux. C'est des gens qui sont irascibles, colériques, qui crient sur les gens qui ne respectent pas les règles. Il y a un engagement émotionnel qui est très fort. Il y a une mobilisation qui est assumée. Et d'ailleurs, voilà, c'est une photo qui est assez révélatrice des transformations de la ville. Et ici, cet expert qui me dit, tu imagines, je vivais au-dessus et maintenant il y a un Père Noël devant, c'est scandaleux, c'est un naufrage, il n'y a plus rien, ils perdent leur culture parce que le propriétaire de ce restaurant a mis un Père Noël pour attirer des touristes. Alors, Cette nostalgie, elle est vécue, assumée, mais ce sont des acteurs essentiels dans le processus patrimonial, ces élites, ces experts qui vivent sur place. Alors, à côté de ça, vous avez aussi, dans cette diversité d'acteurs dans cette arène-là, vous avez des expatriés qui vivent aussi, alors qui ne sont pas des experts du patrimoine, mais qui sont des expatriés qui vivent sur place depuis fort longtemps, et qui ont aussi, eux, une nostalgie pour la ville qu'ils ont connue avant les touristes, et aussi pour une certaine idéalisation d'une mystique bouddhiste, etc., et d'un style de vie d'antan. Vous avez ces expatriés, et vous avez aussi des Laotiens de la diaspora qui ont connu le Laos pré-communiste et qui reviennent aujourd'hui au Laos, qui se réinstallent à Luang Prabang, qui se réinstallent dans leur ville d'origine et qui, eux aussi, ont une rhétorique nationaliste, mais alors une rhétorique nationaliste liée au passé pré-communiste, principalement, donc une nostalgie royaliste. Bon. Mais il se fait que, aussi bien ces expatriés français, mais il y a aussi des Australiens, des Américains qui vivent sur place, que ces élites de l'époque pré-communiste se rassemblent autour d'un discours sur la perte culturelle, sur le déclin. Et voilà, un Laotien qui vit en France et qui retourne périodiquement me dit « Tu sais, ici, tout disparaît, notre culture disparaît, on perd notre culture. Luang Prabang a tellement changé depuis que je suis parti. Il y a des guest houses partout, il y a trop de touristes, ils font n'importe quoi. » Et ils utilisent aussi toujours la métaphore de Takbat, donc de ce rituel, comme le prisme à travers lequel percevoir les changements dans la ville. Takbat, c'est la métaphore de la perte culturelle. Et donc, ils se lancent dans des campagnes de sensibilisation, d'affichage. Voilà, ça, on trouve dans toute une série de lieux sur place. Mais ce sont des affiches qui ont été posées par des expatriés, par des Laotiens principalement de la diaspora, et dit « ne faites pas ça, protégez notre culture, etc. Bon, » voilà. Et j'ai un exemple assez comique, si je puis dire, d'un expatrié français qui vivait là depuis 15 ans et qui me dit « tu sais, moi, j'en ai tellement marre des touristes qui vont photographier les moines que moi, le matin, je vais avec mon appareil photo et je photographie les touristes de tout près. Comme ça, je leur montre à quel point c'est ennuyeux d'être pris en photo. » Et donc, il y a une espèce de corps à corps entre les expatriés, les touristes. Et ce qui est étonnant, c'est quand vous parlez avec les moines vous disent « ça ne me dérange pas du tout, les photos ». Les moines vous diront « Non, moi, les photos, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, ça montre que les gens sont intéressés par notre culture. » Mais alors, vous avez ces expatriés qui, eux, s'indignent. Et voilà, ça... Donc, ça crée une communauté de pertes dans cette ville de Luang Prabang autour de ces différents acteurs et d'une dernière catégorie d'acteurs. Vous avez aussi ça dans les toilettes « Respect de Lao ». Ce sont des initiatives qui sont prises par des expatriés. Il faut respecter la culture Lao. Il faut... ne pas faire de bruit après 10 heures le soir, etc. Dernière catégorie dont je vous parle brièvement avant d'enchaîner sur les résidents du lieu, ce sont les touristes, qui sont aussi une catégorie totalement active aujourd'hui sur place. C'est beau, Luang Prabang, regardez, voilà, c'est une belle vue de la réalité de Luang Prabang aujourd'hui. Et ce sont des profils extrêmement divers, je ne vais pas entrer dans le détail, il y a vraiment des gens d'horizons extrêmement différents qui s'arrêtent par Luang Prabang, mais il y a quand même une attraction nostalgique autour de ce que représente cette ville. C'est une jolie petite ville traditionnelle qu'il faut visiter parce qu'elle est encore préservée des assauts de la modernité, de la modernisation, c'est le discours qui est véhiculé par ces touristes. La plupart des Occidentaux tombent pour le charme indochinois qui leur est offert. On a l'impression dans les cafés d'être transporté à l'époque indochinoise avec les ventilos, les couleurs, etc. On se croirait dans l'amant de Marguerite Duras, etc. Et les touristes viennent chercher cette expérience-là dans une ville qu'ils considèrent aussi authentique, mais menacée. Et je rencontre cette touriste un jour, je ne sais plus où, très bien, mais elle me dit « Tu sais, ici, c'est la pure humanité. » C'est assez incroyable. Ici, c'est de la pure humanité. Ce que tu rencontres ici, les gens sont encore vrais, authentiques, etc. On se croirait chez Frédéric Lopez. Mais le discours aussi, c'est on peut rencontrer des moines, et c'est une expérience qui est faite de respect mutuel. On discute avec les moines. Alors évidemment, les moines, ils tournent ça à leur avantage, ils prennent les numéros de téléphone, ils reçoivent des cadeaux. Enfin, il y a toute une économie aussi du don et du contre-don entre les moines et les touristes. Mais il y a cette idée que, et je vous donne un exemple d'une touriste qui me dit, la ville est un peu moins paisible, mais tu sais, les marchés te donnent encore un repas copieux à 440 centimes d'euros. Ça confirme que le Laos conserve son âme authentique. Donc si on paye 40 centimes d'euros, on est dans l'authenticité. C'est assez intéressant comme positionnement. Bon, mais il y a chez les touristes cette idée d'âme authentique, il y a cette idée de perte culturelle. Je vous disais, ces trois touristes que je rencontre devant un temple et qui me disent, tu sais, regarde, trois touristes hollandais qui me disent, tu sais, les femmes ne portent plus les jupes traditionnelles, c'est dommage. Ou une autre touriste américaine que je rencontre qui me dit, regarde, et tu vois, ils regardent la TV maintenant, ils perdent leur culture. Il y a cette idée que c'est une vieille exonostalgie d'anthropologues, des vieux anthropologues, de dire que la modernité, ça va irrémédiablement aboutir à la perte et à la disparition. Donc, il y a une attraction nostalgique pour nostalgique pour cette ville, certes aseptisée, parce qu'on ne veut pas quand même vivre à l'époque non plus du Laos précolonial, le confort de la bonne nourriture et des guest houses quand même relativement propres, mais il y a une attirance pour le pittoresque que représente cette ville, une imagination passéiste qui attire les touristes et qui est offerte par les entrepreneurs locaux. Ça, c'est évident. Les Laotiens du coin, ils ont bien compris qu'en mettant Indochina Spirit ou ici, en vous invitant à visiter cet hôtel qui est un monde d'enchantement et de nostalgie, mais également en venant vous chercher à l'aéroport avec ce genre de voiture, que plus personne ne veut conduire au Laos, mais qui enchante les touristes qui descendent de l'avion et qui sont cherchés en une vieille Mercedes. Voilà. Donc c'est l'imagination nostalgique, vintage si vous voulez, qui est offerte, et on parle d'un véritable business de la nostalgie. C'est une notion qui a été utilisée par un collègue. Donc cette imagination passéiste, elle est offerte aux touristes. L'engagement nostalgique des touristes, il est néanmoins très faible. Il n'y a pas de mobilisation, c'est en passant, quoi. On est nostalgique pendant une demi-heure. On se dit, ah, c'est dommage, c'était bien. Et puis on passe à autre chose, on va faire du rafting, fumer de l'opium. C'est une nostalgie qui est en passant. Ce n'est pas une nostalgie qui s'inscrit dans... Bon. Et alors, enfin, vous avez les résidents de la ville, et là, vous allez voir qu'il y a un désajustement autour de la perte qui est extrêmement intéressant à analyser. C'est que la plupart des résidents ne sont pas du tout dans un discours et dans un diagnostic de perte culturelle, contrairement au discours des experts, des touristes, des expatriés ou des Laotiens de la diaspora. J'ai fait des centaines d'interviews avec des habitants du coin, aussi bien des habitants du centre-ville, mais des responsables politiques, des moines, des experts religieux, en me demandant, mais est-ce qu'eux sont nostalgiques de cette ville dont se lamentent, dont sont nostalgiques les experts de l'UNESCO. Et il se fait que... Et aussi, qu'est-ce que ça fait de vivre dans une ville du patrimoine ? Comment est-ce qu'ils ressentent cette expérience de vivre dans une sorte d'hétérotopie patrimoniale, dans une espèce de bon. Alors, d'abord, c'est intéressant parce que le mot patrimoine en Laos, c'est moladoc. Et initialement, ça désigne le patrimoine familial, c'est ce qui se transmet dans la famille. Mais quand je parle avec mes interlocuteurs, ils me disent que c'est désormais un patrimoine. Ce qui fait la spécificité de l'UNESCO, c'est que c'est un patrimoine pour les autres, pour le bien de l'humanité. Donc la plupart de mes interlocuteurs ont cette idée que, même s'ils ne la partagent pas dans leur fort intérieur, ils savent très bien que le patrimoine de l'UNESCO, c'est un patrimoine qui est destiné à être offert à l'international, à attirer les touristes, évidemment. Et ils ont bien compris que tourisme et patrimoine sont liés et que si on abandonne le patrimoine, eh bien, le tourisme va décliner. Et la plupart de mes interlocuteurs s'accordent pour dire que leur vie a extrêmement positivement changé depuis la reconnaissance patrimoniale de 1995. Ça a créé des emplois, ça a créé des ressources économiques et financières notables. Et ils sont fiers aussi que leur ville soit reconnue. Il y a une dimension de fierté liée à la reconnaissance par l'UNESCO. Au contraire, il y a aussi un accent sur les contraintes qui sont désormais dont ils sont l'objet. Et il y a cette formule que j'ai souvent entendue, Moladok Monahok, c'est-à-dire le patrimoine, c'est l'enfer. Et parce que c'est un enfer de réglementation, de règles à suivre. On ne peut plus construire comme on veut, on ne peut plus planter comme on veut, on ne peut plus détruire comme on veut. Donc il y a un sentiment de dépossession qui est néanmoins aussi, qui va de pair avec le listage par l'UNESCO. Donc il y a un sentiment de dépossession. Autre chose qui embarrasse bien de mes interlocuteurs, c'est ce discours patrimonial de préservation à l'identique. Et qui est le modèle sur lequel la politique patrimoniale de l'UNESCO Longprabang s'est développée, c'est qu'il faut que les choses soient préservées à l'identique avec les matériaux d'origine, ou en reproduisant des matériaux d'origine, les couleurs d'origine, etc. Et cette idée d'une préservation à l'identique, ça c'est quelque chose qui est extrêmement... une idée auquel mes interlocuteurs résistent beaucoup en disant « on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser des couleurs, de l'acrylique ». Un temple en acrylique, c'est très beau. Et donc, il y a des ajustements esthétiques. Et mes interlocuteurs ont une compétence esthétique, contrairement à ce que disent les experts de l'UNESCO. Ils ont une compétence esthétique. Peut-être pas la compétence esthétique de l'UNESCO, mais ils ont une compétence esthétique de ce qu'est un temple beau, efficace, qui va attirer du monde, etc. Donc, les anciens matériaux, c'est très problématique. Et donc, il y a certaines maisons qui, effectivement, dans le centre-ville, tombent à l'abandon parce que c'est trop cher. Les matériaux qui sont demandés par l'UNESCO sont des matériaux, c'est le bois, c'est des matériaux qui sont onéreux. Or, mes interlocuteurs veulent davantage utiliser des matériaux moins chers. Et une des choses qu'on entend souvent, c'est que le problème de l'UNESCO et du patrimoine, c'est qu'ils veulent que tout soit conservé à l'ancienne. Ici, les gens veulent pouvoir faire des adaptations modernes. Le patrimoine est trop obsédé à tout faire comme avant, on ne doit pas tout garder. Ça, c'est le discours de mes interlocuteurs. Et donc, alors qu'on voit que les experts de l'UNESCO et les touristes déploient une nostalgie d'un style particulier, la plupart de mes interviewés ici, eux, déploient un discours d'aspiration à la modernité qui n'est certainement pas nostalgique dans le cas du Laos. Et je peux vous donner une série d'exemples de ce vieil homme qui me dit « Tu sais, ici, les choses ont beaucoup changé et c'est très bien. Le passé, c'est le passé. Nous n'avons aucun regret. Avant, c'était bien. Maintenant, c'est encore mieux. » D'autres insistent « Nous, on veut encore plus de touristes et d'avions à Luang Prabang. » Donc c'est un discours qui est radicalement contraire à celui des experts de l'UNESCO. Ils disent « Surtout pas agrandir l'aéroport, ça va attirer plus de touristes. » Et pour mes interlocuteurs, ce discours... Et la patrimonialisation, en quelque sorte, c'est une manière de prendre pied dans la modernité et pas de les en protéger. La patrimonialisation, c'est un discours de rentrer de plein pied dans la modernité, dans la mondialisation. Et d'ailleurs, toute une série de mes interlocuteurs disent « Nous, on aime bien le centre-ville, il faut conserver le centre-ville, mais on ne veut plus vivre là-dedans. On ne veut plus vivre dans ces vieilles maisons où il y a de l'humidité, etc. C'est bon pour montrer aux touristes. Nous, on préfère construire des grandes villas aux alentours et qui pourrait les blâmer ? Qui pourrait les blâmer ? Bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nostalgie. Il y a des formes locales de la nostalgie. Et c'est quelque chose qu'on pourra discuter après sur l'universalité de la notion de nostalgie. Je l'utilise ici comme l'idée d'un regret pour un temps passé. Je pense que c'est quelque chose qui est universel. Il y a des formes de regret. Il y a des formes locales du regret, du temps qui passe. Mais il se fait que cette nostalgie, eh bien, elle est en désajustement avec la nostalgie des experts de l'UNESCO. Et quand j'ai interviewé... mais cette diversité d'interlocuteurs, ils mettent la plus souvent l'accent sur la continuité, alors que les experts de l'UNESCO mettent l'accent sur la discontinuité. Eux mettent l'accent sur le fait que les choses ne se perdent pas. Ici, un tel me dit « Tu sais, on continue la tradition ne change pas, la coutume ne disparaît pas, même avec le tourisme. Les Laotiens conservent leur tradition, Takbat ne va pas disparaître, c'est une tradition Lao. » C'est un discours d'un vieux monsieur du centre-ville. Un autre vieux monsieur me dit « Tu sais, même si les gens louent leur maison et quittent le centre-ville, je ne suis pas inquiet, même avec les Occidentaux, la tradition va persister, maintenant les Occidentaux nous aident à préserver Takbat. » Et donc il y a une multitude d'exemples que je pourrais partager sur le fait que Les discours alarmistes, catastrophistes, nostalgiques des experts sont en désajustement avec des perceptions et des représentations locales. Alors, ça m'amène à... Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai hip-hop, je trouvais ça justement un jeune qui a dû mettre ça, qui a regardé la TV. Et qui... Je vais m'orienter doucement vers mes conclusions. D'abord, je voulais vous montrer, à partir de l'exemple de Luang Prabang, alors là, je vais conclure plutôt sur ce cas-là, c'est qu'on est confronté à la complexité des attachements nostalgiques. Et il y a peut-être une chose sur laquelle on pourrait réfléchir, c'est le fait qu'il n'y a pas une forme de nostalgie standard, mais il y a une multitude d'engagements nostalgiques avec des investissements cognitifs et émotionnels qui sont divers. Et c'est pour ça que j'ai voulu distinguer entre exo et endo-nostalgie, parce que je pense que ça nous permet déjà une première tentative de raffinement de cette notion. Et parce que quand vous voyez la manière dont ces différents acteurs à Luang Prabang s'engagent avec le passé de la ville, vous avez des investissements cognitifs et émotionnels qui sont différents. Même dans certains cas, l'expert bureaucrate de Paris, c'est un investissement qui est essentiellement cognitif, sans engagement émotionnel. C'est une nostalgie qui est principalement une exonostalgie, sur un lamento sur la perte des autres, mais sans engagement émotionnel extrêmement fort. Par contre, quand vous voyez l'engagement de l'expert sur place, bien, là, il y a une combinaison d'une nostalgie de son vécu à lui depuis 15 ans sur place qui vient se combiner avec un discours sur la perte des autres. Le touriste aussi, c'est une nostalgie qui est extrêmement superficielle, si je puis dire. C'est une nostalgie qui est un discours qui est rarement accompagné d'un engagement émotionnel très fort. Par contre, quand vous parlez avec les expatriés du lieu, eh bien, parfois, ils connaissent très mal l'histoire de la région, mais ils sont extrêmement engagés émotionnellement pour la préservation. Donc, il y a des formes d'engagement nostalgique qui sont différents, avec des investissements cognitifs et émotionnels qui sont extrêmement différents, au sein même d'un centre-ville urbain comme celui de Luang Prabang, et les résidents eux-mêmes qui ont des nostalgies royalistes, qui ont des nostalgies pour le temps qui passe. Les jeunes filles ne portent plus les jupes, disent certains vieux. On ne se salue plus en faisant en mettant les mains les unes contre les autres, etc. Il y a des formes locales du regret, mais qui sont désajustées par rapport aux grands récits nostalgiques, patrimoniaux de l'UNESCO. Donc, diversité de sentiments nostalgiques et surtout une question fondamentale qui est celle de savoir comment alors créer de l'identification au patrimoine quand on a des acteurs qui n'ont pas ce sentiment de perte. C'est quoi faire du patrimoine quand les acteurs avec lesquels vous travaillez ne ressentent pas la perte ? C'est une question fondamentale que l'UNESCO et beaucoup d'agences patrimoniales ne se posent pas, puisque c'est souvent des pratiques top-down, du haut vers le bas, mais ou venant d'élites vers des populations locales. Mais c'est une question majeure, je pense, cette question de l'identification, surtout pour des populations qui ne s'identifient pas et qui n'ont pas de discours de perte sur la perte de leur culture. Alors, trois constats théoriques pour clôturer mon exposé d'aujourd'hui. D'abord, évidemment, vous l'avez compris, une invitation à faire une anthropologie des formes locales, des diagnostics et des remèdes contre la perte. Je pense que les anthropologues, les sociologues et bien d'autres disciplines intéressées par la question de la transmission et de la perte ont tout intérêt à écouter ce que les acteurs disent, les savoirs réflexifs qu'ils produisent sur la transmission et la perte. Dans toutes les sociétés, il y a des discours sur ce qui se perd, ce qui se transmet. Et c'est vrai que nous, anthropologues, on peut apporter cette dimension-là, de s'intéresser à, par exemple, pourquoi des catégories d'acteurs décident d'abandonner des pratiques. Je trouve que c'est une question extrêmement importante. Pourquoi des groupes comme les initiés dont j'ai parlé au début, qui veulent abandonner des pratiques religieuses parce que l'islamisation représente un bénéfice en termes d'accès à la modernité, etc. Il y a un intérêt fondamental pour les anthropologues à porter leur regard sur pourquoi des gens se désintéressent de pratiques, pourquoi ils décident d'arrêter de les pratiquer. Et ce n'est pas toujours une imposition, la perte culturelle, ce n'est pas toujours une imposition de l'extérieur. Ça peut être un désir. C'est pour ça que j'ai utilisé aussi la notion de désir dans mon titre. Il y a un désir de transmettre, mais il y a aussi parfois un désir de ne pas continuer. Ça, c'est une notion qui me semble importante. La deuxième chose, c'est... Il y a le discours des acteurs, et puis il y a ce que nous pouvons aussi dire comme anthropologues. Et on fait des modèles. On fait des modèles de ce qui se transmet et de ce qui se perd. Donc, si vos interlocuteurs vous disent ça se perd, parfois, effectivement, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui transmettent par-delà le discours de perte. Et c'est ce que j'ai montré au début dans mon exposé, c'est que par-delà un discours sur la disparition de la coutume, il y a toute une série de pratiques liées à la coutume qui persistent et que la transmission ne s'opère pas toujours où on l'attend. Et dans ces moments où il y a une rhétorique décliniste qui a un impact sur nous, eh bien, je pense qu'on a tout intérêt à réfléchir aux mécanismes de la transmission et de la perte. Comment est-ce que ça se passe? Et on peut, en combinant des méthodes qualitatives et parfois quantitatives et intergénérationnelles, documenter la perte. On peut documenter, on peut mesurer comment les choses se perdent et comment les choses se transmettent. Je pense à ce récit. Alors, si vous trouvez la référence, je serais vraiment intéressé, parce que je ne parviens plus à trouver la référence de cette petite comment est-ce qu'on va dire, cette histoire du Yiddishland des Juifs d'Europe de l'Est. Je sais qu'elle a été citée par Freud, elle a été reprise par Carlo Severi dans un texte plus récent, mais je ne connais pas je serais content de savoir si quelqu'un connaît cette histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui raconte une histoire où son grand-père allait à un arbre et faisait un rituel, etc. Et puis son père ne connaissait plus le rituel, mais il y avait toujours l'arbre, donc il continuait d'aller à l'arbre, etc. Et le jeune homme dit, eh bien moi, je ne sais plus où est l'arbre, je ne connais plus le rituel, mais je vous raconte cette histoire. Et c'est toujours ma manière d'être juif. Et je pense que c'est assez révélateur aussi des mécanismes de la transmission, et que lutter contre le tout-perdre contemporain, contre le déclinisme, on doit aussi s'intéresser aux mécanismes de la continuité. Et ils se jouent de manière extrêmement compliquée, en dehors des voies auxquelles on les attend. Et donc, ça nous invite à réfléchir. En fait, tous ces débats sur la perte culturelle nous invitent aussi à réfléchir sur la durabilité des sociétés. Et je reviens à ce que j'ai dit au début, je ne suis pas en train de nier les traumatismes, bien au contraire, mais les sociétés incorporent bien souvent ces traumatismes. Elles peuvent durer avec leurs traumatismes, et je pense que c'est un aspect qui est passionnant à analyser. Et le dernier point, eh bien, c'est ce que j'ai appelé l'extension du domaine de la perte, parce que je pense qu'alors là, pour le coup, il y a l'extension d'un certain discours sur la perte à travers des processus de mondialisation, à travers des organisations internationales, l'UNESCO et d'autres, des organisations locales aussi qui se réapproprient les discours internationaux. Il y a une extension du domaine de la perte et du diagnostic de type UNESCO. Alors ça, c'est un autre aspect qui est aussi passionnant à analyser, c'est l'intrication aujourd'hui de rhétoriques plus anciennes avec ces diagnostics patrimonialistes contemporains. Mais je voudrais aussi mettre en avant, pour terminer, ce qu'on pourrait appeler l'aura de la nostalgie. Parce que la nostalgie, une fois qu'elle est réappropriée, en tout cas cette nostalgie patrimoniale de type UNESCO, elle produit des effets très réels. La nostalgie, ce n'est pas simplement un sentiment passéiste, un lamento sur... La nostalgie, quand elle est liée à des politiques patrimoniales, elle produit des effets très réels sur la vie des gens. Nouvelles configurations sociales, des ressources économiques, des conflits politiques. Cette patrimonialisation, elle produit des effets très réels. Et donc, cette nostalgie patrimoniale, elle est performative. Elle produit des effets dans les sociétés dans lesquelles elle est déployée. Mais elle produit aussi un effet d'attraction. Il y a quelque chose d'attirant. Alors c'est quelque chose qu'on pourrait discuter dans le débat, mais il y a quelque chose de captivant aussi chez toute une série d'élites internationales et pas seulement. Cette nostalgie a une aura, cette nostalgie patrimoniale, elle a une aura, elle produit quelque chose, elle produit des effets sociaux, politiques, et elle est aussi attirante. Et là, il y a une question sur les effets de la nostalgie et sur l'aura de cette nostalgie qui me semble intéressante à poser. Je terminerai par cette phrase que j'aime beaucoup de Kundera, qui est quand même le penseur, un des écrivains de la mémoire, et il écrit sur la nostalgie: « Les nuages oranges du couchant éclairent toute chose du charme de la nostalgie, même la guillotine. » Et ça montre bien qu'effectivement, la nostalgie, elle a cette capacité transformative. Elle peut rendre l'odieux beau, elle peut faire du pauvre le riche. Il y a quelque chose dans cette nostalgie patrimoniale de performatif. Voilà. Merci.
Merci David pour cet exposé très stimulant qui pose pas mal de questions. On va essayer de prendre plus ou moins dans l'ordre. La première, c'est celle que tu as traitée au début, c'est la question de l'exo-nostalgie qui évidemment est un point sensible pour les ethnologues, puisque cette phrase, enfin ce développement de Malinowski au début des Argonautes, enfin tous les étudiants en ethnologie le connaissent, puisqu'ils sont en principe censés, avant de partir sur le terrain, tous avoir lu les Argonautes, et qui, lorsqu'ils arrivent sur des terrains plus ou moins lointains, plus ou moins exotiques, sont conduits à eux-mêmes réfléchir sur l'état de la société qu'ils rencontrent et à garder en mémoire, au fond, ce jugement de Malinowski. Et pour évoquer mon cas personnel, lorsque, avec Anne-Christine Taylor, nous sommes arrivés chez les Achuar, j'ai eu un tout petit peu le sentiment que c'était pas ce que nous... D'abord, que ce que nous étions en train d'observer, c'était quelque chose qui probablement allait changer assez rapidement. Et que si nous étions arrivés 5 ou 10 ans plus tôt, nous aurions vu des choses différentes. Sauf que nous n'aurions pas pu venir 5 ou 10 ans plus tôt parce que, tout simplement, il était impossible de pénétrer dans cet endroit, parmi les Achuar, où les premiers contacts pacifiques venaient de se produire. Donc c'était de toute façon... Ça, c'était de la nostalgie, mais c'est une sorte de nostalgie pour un passé imaginaire impossible à reconstruire. Et puis, au fil du terrain... nous avons été témoins de manifestations de pertes. En particulier, les Achuar continuaient à faire la guerre, mais certains des rituels de guerre, à l'évidence, étaient des bribes qui surnageaient d'une période où ils faisaient encore la chasse aux têtes. Alors, bizarrement, alors que c'était sans doute le groupe le plus isolé de l'ensemble Jivaro, la chasse aux têtes avait disparu pour des raisons qu'on ne s'explique pas toujours très bien. Il y a 2 générations, peut-être 3, alors que les voisins, qui étaient plus près du front de colonisation, allaient chercher des têtes chez eux. Et donc, il y a eu une perte. Et cette perte, on peut en juger au fait qu'ils considéraient que c'était une pratique absolument répugnante, mais néanmoins... Dans les rituels de guerre, où ils n'allaient pas se contenter de tuer les gens, tout simplement, il y avait des éléments qui surnageaient d'un rituel de chasse aux têtes qui avait été décrit par des missionnaires chez les voisins. Donc il y a eu une perte culturelle. Mais il y avait, et cette perte culturelle, au fil des années, puisque ça fait 40 ans qu'on va régulièrement chez les Achuar, on a eu exactement le même genre de commentaire que celui que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des jeunes qui disaient « Oui, nos parents nous ont rien transmis, c'est toi qui sais maintenant, c'est à toi de nous apprendre, etc. » Donc, en fait, on donne à l'ethnologue la charge, au fond, d'assurer la transmission, qui est quelque chose de très commun un peu partout dans le monde. Et au fond, ça pose la question de qu'est-ce qui se perd et qu'est-ce qui ne se perd pas, qu'est-ce qui... subsiste et qu'est-ce qui a disparu, qui est une question fondamentale à la fois du point de vue de l'exo-nostalgie, c'est-à-dire de la manière dont on se remémore son propre passé à soi et ce que l'on observe dans la façon dont les gens se remémorent le leur. Et ce qui me frappe dans le cas amazonien en général, je pense que ce n'est pas uniquement le cas achuar, c'est que ce qui change... Ce n'est pas tellement la culture, il y a des pertes comme celles que je viens d'évoquer pour la chasse aux têtes, mais ce qui change, c'est, disons, j'allais dire la société, d'un côté la culture, du côté la société, c'est des concepts un peu réducteurs, mais c'est des formes d'être ensemble qui évoluent au fil du temps et qui sont de moins en moins possibles du fait d'une mainmise, disons, de l'extérieur, en l'occurrence en Amazonie, du néocolonialisme interne, qui fait que les gens n'ont plus, au fond, la liberté de vivre comme ils vivaient auparavant. Alors, dans le cas Achuar, dans le cas Jivaro, c'est très net. C'est-à-dire que au cours des 40 dernières années, on est arrivé dans une société où il y avait sans doute de la perte culturelle, mais où les gens vivaient selon leurs propres règles. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, ils sont sous la domination d'un État. Alors, ce n'est pas une domination considérable, mais néanmoins, il y a un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent plus faire. Et notamment, parmi ce qu'ils ne peuvent plus faire, ils ne peuvent plus faire la guerre. Et la guerre joue un rôle absolument central dans leur manière d'être ensemble, disons, pour toutes sortes de raisons. Et donc, au fond, je pense que la nostalgie, non seulement parmi les différentes formes de nostalgie que tu évoquais, il y a aussi la nostalgie en fonction, comment dire, du type de société qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est important de se remémorer, de transmettre dans une société. En Amazonie, il n'y a pas de mémoire. Les Achuars, beaucoup d'entre eux ne savent même pas le nom de leur grand-père. Donc, il n'y a pas de mémoire généalogique, il n'y a pas de mémoire historique, etc. Donc, c'est une société qui, du point de vue de la durée, est étale, à la différence de ces sociétés initiatiques dans lesquelles on transmet des choses de génération en génération. On imprime la marque du social dans le corps, etc., etc. Et je pense que ces choses-là, précisément, diffèrent. Et ce qui me frappe... entre les ethnologues de l'Amazonie de ma génération et puis mes étudiants, c'est que nous avons vécu, pour beaucoup d'entre nous, dans des sociétés qui, encore une fois, vivaient selon leurs propres règles. Et la plupart de nos étudiants font maintenant des choses différentes, c'est-à-dire qu'ils font un travail qu'on n'a, nous, jamais véritablement fait, c'est-à-dire un travail linguistique en profondeur pour analyser des discours de sociétés qui sont... D'un certain point de vue, dépendantes d'un corps extérieur, de colons, qui sont obligés évidemment de se défendre aussi contre la spoliation territoriale et la domination, etc. Et donc il y a vraiment quelque chose aussi qui a disparu. Et qu'est-ce qui a disparu? C'est l'autonomie. Alors, comment. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au fond, dans le discours. Patrimonial qui existe aussi hein, en Amazonie, exactement comme ce que tu as évoqué, ce n'est pas... Le discours de la nostalgie ne porte pas sur cette perte d'autonomie, qui pour nous est évident, mais il porte sur la perte culturelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait plus rien, c'est toi qui dois nous apprendre, etc. Et donc, et pourquoi? Parce que la culture est devenue quelque chose, alors que c'était une sorte d'implicite de vivre ensemble partagé, c'est devenu quelque chose de patrimonialisé par l'intermédiaire précisément de ces grandes organisations internationales. Et l'UNESCO n'est pas présent chez les Achuars, mais ce qui percole, au fond, c'est l'idée de patrimonialisation. Et elle percole absolument partout. Au fond, c'est une première question. Est-ce que cette idée de patrimonialisation, ce n'est pas une façon, pas nécessairement délibérée d'ailleurs, d'éliminer complètement la domination politique, impérialiste, néocoloniale, qui assujettit des populations à une mondialisation qu'on tend à déplorer en termes culturels, mais qui est aussi une mondialisation en termes de domination politique et économique. Ça, c'est une première question qui permet de combiner, au fond, l'idée d'exonostalgie et puis le constat de ce que l'on observe et la façon dont les gens parmi lesquels on réside, au fond, perçoivent, peut-être de façon un peu oblique, ce qui se passe sans nécessairement mettre un nom dessus. Est-ce que ça te...
Ah, tu veux
que... Je ne sais pas, est-ce que cette idée...
Moi, il y a plein d'idées qui surgissent à ce que tu dis. D'abord, autour de la question générationnelle, je pense qu'effectivement, je pense que moi, quand je suis allé sur mon premier terrain en Guinée, j'ai ressenti cette nostalgie dont on m'avait matiné. Mon directeur de thèse je m'attendais à des grands rituels, je m'attendais à des... Et quand je suis arrivé, ben j'ai eu un choc nostalgique. Je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas confronté aux sociétés que je voulais. Bon. Il y a un anthropologue grec, mais basé en Angleterre, qui utilise cette notion de nostalgie ethnographique, Théodosopoulos, et qui dit qu'on construit aussi la représentation des sociétés dans lesquelles on travaille sur fond des textes qu'on a lus précédemment.
Bien sûr, bien sûr.
Et on est nostalgique de ces textes aussi. On arrive en tant que jeune chercheur, on arrive avec plein de ces textes et plein des discours de nos mentors. Et donc ce choc nostalgique, moi je... Alors ce que tu dis sur la perte, la perte est une donnée de l'existence, est une donnée de l'existence sociale. Donc effectivement, des choses se perdent. Et ce que tu dis très bien, c'est que des collectifs ont des manières différentes. Moi je suis absolument ignorant pour ce qui est des questions amazoniennes. Et donc je peux parler que des deux cas sur lesquels j'ai travaillé et comment le discours de perte s'inscrit dans ces configurations-là. Mais je pense qu'effectivement, dans des situations où il y a des régimes de temporalité, c'est quand même aussi lié fort à la temporalité, qui sont différents, ben c'est très différent. Alors, savoir si la patrimonialisation, c'est une forme de, tu dirais, une forme de résistance.
Non, dans ce que je dis, c'est que la patrimonialisation, l'idée qu'on va, on peut patrimonialiser sa culture, au contraire, ne permet pas de se rendre compte que ce qui est en train de disparaître, c'est une forme de vie ensemble, une forme d'organisation sociale, pour employer un terme un peu générique, qui n'est plus possible parce qu'on n'a plus la liberté de s'associer selon les formes habituel, même si cette liberté, encore une fois, dans le cas des Achuars, ça supposait de faire la guerre avec les voisins, mais ça avait une dimension absolument fondamentale de la vie commune qui a été progressivement supprimée. Et puis, il y a le reste aussi, à commencer par l'éducation. Donc, les Achuars ont dit qu'ils ont accepté le contact avec les Blancs parce qu'ils se rendaient compte que les Blancs... Par des échos avec des voisins qui, eux, étaient déjà plus près du front de colonisation, maîtrisaient l'espagnol, le langage, l'écriture, etc. Ils se sont dit, c'est très important, l'éducation, c'est important, et ils ont accepté le contact pour ça. Mais évidemment, elle a pour effet, on le sait bien, que lorsqu'on colle les enfants... à l'école toute la journée, eh bien, un très grand nombre des savoirs qui sont des savoirs implicites, qui sont des savoirs incorporés, etc., qui sont acquis notamment par les garçons, qui sont ceux que je connais le mieux, à la chasse, etc., ça disparaît. Mmh. Ça disparaît, ça devient patrimonialisé. C'est-à-dire, il y a des ethnologues qui écrivent là-dessus, comme moi. Ouais. Et puis, les gens lisent. Et effectivement, continuer dans l'exemple des Achuars, il y a un Eco Lodge qui a été construit maintenant au sud du territoire Achuar, où il y a des touristes, ça coûte extrêmement cher, c'est essentiellement des Européens qui viennent pour passer 5 jours, et il y a des Achuars qui viennent leur montrer ce que c'est que de vivre près de la nature.
Et avec ton bouquin.
Avec mon bouquin, oui, bien sûr. parce que c'est la façon... Oui. Parce que comment faire autrement ? Oui. Autrement, ça voudrait dire, au fond, des chanter des anentes, c'est-à-dire qui, de toute façon, ne peuvent pas être chantées publiquement, c'est-à-dire de ces incantations qu'on adresse à l'âme des animaux, etc. etc. Donc, pour patrimonialiser cela, on est obligé de transformer complètement les conditions pragmatiques d'énonciation de ce type de discours, pour les rendre accessibles aux touristes.
Ouais.
Et donc, cette patrimonialisation, elle est probablement dans une situation de transformation, elle est probablement inévitable, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle laisse de côté, au fond, la conscience de ce qui s'est véritablement transformé, c'est, au fond, la forme de vivre ensemble.
Oui. Oui, ça me semble. Il y a deux choses que tu dis qui me font penser. Le fait d'arriver avec son bouquin, c'est des choses que j'ai entendues aussi également en Afrique de l'Ouest. Maintenant, on aura enfin notre bouquin. Donc, cette passation du rôle de l'anthropologue comme préservationniste. Mais ce que je voudrais dire, il y a aussi, enfin, dans un cas auquel je pense au Laos, je te raconte une anecdote de terrain. Je vais travailler avec une dame qui est réputée avoir des compétences de divination. Et c'est étonnant parce qu'elle est au centre-ville de Luang Prabang, donc en plein milieu de l'espace patrimonial. Et elle va être possédée, parce qu'elle est possédée par des entités qui vont lui permettre de prédire l'avenir, et elle change de voie, etc. Mais avant, au moment où j'entre, elle me dit, ici, pas de photo, c'est pas l'UNESCO ici, c'est pas le patrimoine. Et donc, il y a aussi cette manière en me disant ça, ça veut dire qu'elle avait cartographié ce qui est du registre de la vulgate patrimoniale, ce qu'on offre aux touristes, hein, et puis ce qui est de l'ordre, peut-être de ce qu'on pourrait appeler l'intimité culturelle, et de la chose qu'on ne partage pas avec le touriste ou le visiteur, et qui est ici, pas de photo, pas d'enregistrement, ici, c'est pas la culture offerte. Donc je pense que ce serait intéressant de travailler aussi sur la manière dont les acteurs locaux jouent, parce que on pourrait avoir lu certains textes sur l'Amazonie, je sais bien que les acteurs jouent avec la notion de culture, ils l'utilisent, ils savent très bien ce qu'ils peuvent en tirer de cette notion de culture. Et donc, il y a des ruses autour de la notion de culture et qui, effectivement, témoignent du fait que le patrimoine, ce n'est bien qu'une voie parmi bien d'autres.
Juste une autre anecdote, mais qui ne concerne pas l'Amazonie. Il y a une ville au nord de l'Équateur qui s'appelle Otavalo, qui est très fréquentée par les touristes parce qu'il y a un marché autochtone, enfin indien. Et cette ville est le centre d'une communauté amérindienne, d'Indiens qu'on appelle Otavalo, Otavaleños, etc., et qui sont assez connus. Vous avez certainement vu en France où ils sont présents dans le monde entier. Ils ont un système qui est assez proche, au fond, du système des Mormons, c'est-à-dire que tous les jeunes vont faire cette sorte de service à l'étranger. Et pourquoi ? Pour vendre des textiles. Et donc, ils ont un costume qui est assez caractéristique. Ils ont une longue natte dans le dos. Ils ont un poncho gris, un grand feutre gris. Donc, on les voit dans le métro, ici, etc. Et donc, ils ont pendant longtemps exporté des textiles qu'ils faisaient à la maison. D'ailleurs, historiquement, c'est intéressant parce qu'ils ont... sinon mécanisé, en tout cas semi-industrialisé la production du textile en travaillant dans des haciendas de textile mises sur pied par la couronne espagnole qui demandait un tribut en textile. Donc c'est une histoire très très compliquée. Ça n'a rien de si vous voulez, c'est pas les bons sauvages. C'est un système très compliqué de soumission qui a été récupéré par les Otavaleños. Et maintenant, ils font de la production de textiles, non plus exportés en ballot, mais ils louent des garages à Düsseldorf ou à Saint-Germain-en-Laye, et puis ils fabriquent des textiles et ils les vendent sur les marchés, etc. Bon. Et l'objet de ça, c'est quoi ? C'est d'acheter de la terre, c'est-à-dire de récupérer le territoire des grandes haciendas autour d'Otavalo, qui étaient essentiellement les villages otavaleños, c'était sur les collines, hein, sur les flancs de collines, comme c'est un phénomène classique, là, les populations autochtones ont été virées des terres les plus fertiles. Et ils ont donc, avec cet argent, racheté de la terre à une époque où, en plus, c'était pas très intéressant de continuer à faire du bétail dans les haciendas, parce que c'était pas la forme la plus capitaliste, la plus rentable. Et donc, progressivement, ils ont récupéré avec ça une grande partie du territoire. Et puis, ils ont commencé, dans la ville d'Otavalo, à racheter des maisons. Pourquoi ? Parce que ces maisons, elles appartenaient aux propriétaires des haciendas qui vivaient une partie de la semaine sur leur hacienda, mais une partie de la semaine en ville. Donc, ils ont racheté ces maisons. Ce sont des maisons coloniales. Donc, c'est une petite ville coloniale très jolie. Et voilà pas que lorsqu'ils rachètent les maisons, ils les démolissent et ils construisent des trucs en béton. Alors, catastrophe, l'UNESCO arrive en courant, évidemment, le Patrimonio National, enfin tous les organismes qui sont, ils disent, mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi est-ce que vous détruisez les maisons coloniales ? Et un jour, il y a un Ottawaïen qui a répondu, est-ce que j'ai une tête de colonial ? C'est exactement ça. Ouais. C'est pas, ils n'avaient pas envie d'habiter dans les maisons de leurs colonisateurs. Ouais. Et c'est là qu'il y a des conflits d'interprétation.
Totalement.
sur ce qui se transmet, se passe, et ce qui est effectivement accessible à l'exonostalgie ou pas.
Oui, c'est des choses que j'ai entendues au Laos de personnes me disent, tu sais, l'UNESCO, c'est un détail, l'UNESCO, c'est l'UNESCO est là depuis 15 ans, nous on est là depuis tellement plus longtemps, l'UNESCO, c'est bon, ouais.
Je ne vais pas mobiliser la parole.